Vous écoutez Radio Campus sur 93.3. Il est 16h. Capricorne, vous n'êtes pas encore sobre de la veille. Ne conduisez pas.
Radio Campus 93.3.
Comment vous dites ?
Je vais poser toutes les questions.
Bah oui, Jamy.
Que ça veut dire que ceci ?
Hein, c'est-à-dire, ça veut dire...
C'est-à-dire, au début, je regarde ça.
C'est-à-dire en plein budget.
C'est-à-dire dans la richesse.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire
si. Que, voilà.
Bienvenue sur Radio Campus, vous écoutez C'est-à-dire, vous ne le savez pas encore, mais c'est votre toute nouvelle émission mensuelle favorite. Le contrat est simple. Un sujet, une heure, sept chroniqueurs talentueux, avec un seul objectif, poser plus de questions qu'amener de réponses. Et aujourd'hui, je vais vous faire deviner notre thème. On la boit, on la mange, on la respire, on la transpire parfois, on la pollue, la dépollue, la dessalinise. Elle peut être lourde, fluorée, distillée, gazeuse, oxygénée, de mer, de table ou de pluie. Elle est l'élément primordial dans lequel baignent toutes les sources de vie connues. Elle recouvre 71% de la planète, mais seulement une très petite quantité sort de nos robinets. Inéquitablement répartie, elle peut être source de conflits.
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Au cours de cette émission, on ne tarira pas d'éloges à son égard pour la simple et bonne raison que c'est dimanche, le jour où nous redécouvrons son pouvoir hydratant.
Et au menu aujourd'hui avec nous, Skin nous parlera de l'eau dans tous ses états et nous partirons pour Jupiter et ses lunes à la recherche du bien commun.
On reviendra de l'espace et pendant que Samson, garçon Starship, on troquera nos jumelles pour le microscope de chaton qui nous emmènera dans la dimension des acronymes à 4 lettres pour découvrir les PFAS, ces ennemis invisibles et destructeurs qui polluent notre quotidien.
Pour amener de l'eau à votre moulin, nous essayerons d'échanger nos points de vue dans une ambiance participative et inspirante. Tout cela sera évidemment ponctué de surprises et de pauses ludiques.
Puis place au complot avec le docteur Nirvan qui nous présentera sa thèse sur la mémoire de l'eau, un sujet magistral qui sera traité avec brio, à n'en pas douter.
Et on finira en douceur avec PS et son point Q. Il a fait ses propres recherches et les résultats vont vous surprendre. Et on en profitera pour lui demander pourquoi sa chronique se nomme ainsi. Et on va débuter avec Skinner.
Gobain. Effectivement, on va commencer par parler de l'eau. Et pourquoi est-ce que l'eau est aussi importante quand on parle de vie ? Est-ce que vous avez quelques idées, quelques suggestions sur pourquoi est-ce que l'eau pourrait être aussi importante ?
Parce qu'il y en a plein.
Parce qu'on est composé à plus de 80% d'eau.
Regardez-le, ramener sa science, l'autre là-bas.
Ouais.
Il en vient sur mon territoire. Ouais. Arrête d'être jaloux.
Ça explique pas pourquoi c'est à l'origine de la vie.
Non, c'est, en fait, l'explication de pourquoi est-ce que l'eau est importante pour la vie est en fait due à sa composition chimique. Comme vous le savez, l'eau est composée d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Et en fait, sa conformation spatiale lui donne un certain pouvoir, à savoir que l'oxygène est d'un côté et les deux atomes d'hydrogène de l'autre. Et donc, la charge est inégalement répartie. Ça veut dire que l'eau est une molécule polaire. Ça y est, je vous ai déjà
comme
perdu.
Les ours ?
Oui. Non, contrairement aux ours, en fait, juste un petit peu, que sur la patte avant gauche de l'ours.
N'importe quoi.
Non, mais cette irrégularité dans la charge de l'eau lui confère le fait d'être un excellent solvant. Quoi. Pas sur les hydrocarbures, mais sur les molécules qui sont aussi polaires. Quoi. Autrement dit, c'est très facile de dissoudre des sels ou quoi que ce soit d'autre dans de l'eau, et ce qui est évidemment utile pour la vie. Puisque, qu'est-ce que la vie ? C'est une réaction chimique auto-perpétuée. Quoi.
Qu'est-ce que la vie ? C'est vrai que c'est une question très profonde.
C'est beaucoup trop profond pour cette émission.
C'est ce que j'allais dire, c'est trop métaphysique pour cette émission. Mais enfin, bref, toujours est-il que cette caractéristique confère également à l'eau une tension de surface extrêmement élevée. Ça veut dire qu'elle peut former des gouttes et elle est soumise au principe de capillarité. Vous savez qui est très utile pour un stylo à plumes, par exemple.
Parce que l'encre, elle coule dans le petit canal, elle remonte.
C'est un peu ça. Ouais. Et en plus, dû à des interactions entre les atomes d'hydrogène, l'eau peut également sous forme liquide sur une grande range de température et de pression. Donc tous ces aspects font que l'eau est presque primordiale à la vie. Et d'ailleurs, comme tu l'as souligné dans le début, chacun des organismes vivants qu'on a pu observer sont tous composés majoritairement d'eau. Alors maintenant, quel est le rapport avec Jupiter, vous allez me dire ?
Oui, c'est vrai. Oui.
Quel est le rapport avec Jupiter, Samson ?
Merci de me fournir un tremplin aussi, parfait. C'est qu'en fait, une des lunes de Jupiter, vous connaissez les quatre lunes principales de Jupiter, à savoir Io, Europa, Ganymède et Callisto. Eh bien, Europa est un candidat à cause de, du fait qu'on ait observé tout un tas de données qui pointent vers l'existence d'eau sous sa surface, quoi. Maintenant, avant de, d'en arriver là, j'en parlerai un peu plus tard après, pourquoi, enfin, comment Jupiter influence-t-elle son environnement ? Parce que si on regarde comment est-ce qu'elle est construite, en fait, littéralement, l'endroit où Europa existe est parmi les endroits les plus difficiles pour exister. Oh là là, je me répète un peu.
Mais oui, mais c'est pas grave.
Parce que Jupiter, en fait, est composé aussi un gros pourcentage d'hélium. Et cet hélium est soumis à une pression tellement phénoménale, énorme, qu'il se comporte comme un liquide métallique. Donc ça veut dire qu'autour de Jupiter, il existe des champs magnétiques incroyablement puissants, quoi, de l'ordre de 20 000 fois aussi puissants que ceux qu'on trouve sur la Terre. Et qui, en plus du fait que, exactement comme la Terre d'ailleurs, l'angle avec lequel, l'angle avec lequel le champ magnétique tourne en tant que Jupiter et n'est pas au même endroit que son orbite géologique. Autrement dit, le champ magnétique, en plus de tourner, et change vraiment au niveau spatial.
Il y a des anomalies en plus.
En plus, oui. Mais c'est surtout qu'il est, il est tellement puissant qu'il a une influence sur tous les autres satellites de Jupiter. Déjà à Io, qui est la lune la plus proche. Est soumise à une activité volcanique intense qui fait qu'elle émet énormément de dioxyde de soufre depuis la planète. Et ce dioxyde de soufre devient ionisé et tourne à une vitesse phénoménale de l'ordre de 300 km par seconde autour de Jupiter. Ce qui crée ce qui d'une étend le champ magnétique et crée surtout une intense zone de radiation. Et cette zone de radiation est tellement puissante qu'elle est capable de bousiller n'importe quel satellite assez rapidement. Donc, on se retrouve avec une planète. Maintenant, pourquoi Europa ? Car cette planète est soumise, à cause de cette ceinture de radiation, à une radioactivité à la surface de l'ordre de 5400 millisieverts par jour. Autrement dit, 1800 fois plus forte que celle sur Terre. Autrement dit, en quelques jours, un humain mourrait de radiation poisoning. Il serait empoisonné et mourrait. Et en plus, étant donné que Europa est aussi loin, Jupiter en elle-même est tellement loin du Soleil, elle reçoit que 4% de notre exposition solaire. Donc il fait très très froid là-bas. Donc la surface d'Europa est aux alentours de moins 160 degrés.
C'est un peu froid.
Effectivement, ça serait c'est difficile de développer de la vie là-bas. Donc maintenant, pourquoi ? Alors pourquoi est-ce qu'on a envoyé une sonde vers Europa avec toutes ces embûches sur le trajet.
Il y avoir des bonnes raisons.
Exactement. Quoi. En 1989, la sonde Galileo, lancée en 1989, donc résultat aux alentours de 1995, a repéré que le champ magnétique d'Europa était complètement, était différent. Et qu'Europa, en fait, a son propre champ magnétique. Ce qui veut dire que la raison pour laquelle elle a ce champ magnétique, c'est forcément parce qu'il a une couche de conducteur quelque part sous sa surface. Quoi. Et bien, en creusant un peu plus profond, on a découvert que c'était en fait de l'eau salée.
Un océan.
Exactement, un océan qui, d'après les observations, commencerait à partir d'une dizaine de kilomètres de profondeur et pourrait s'étendre jusqu'à 100 kilomètres de profondeur. Ça veut dire qu'il y aurait plus de volume d'eau sur Europa que ce qu'il existe sur Terre.
C'est un peu une Terre inversée, en fait. Avec une surface et de l'eau en dessous.
Merci de repointer la surface, parce que c'est justement cette couche de glace due aux températures très basses à l'étage du haut qui fait que c'est possible pour l'eau d'être liquide. Grâce à des mouvements, grâce aux orbites de Europa, qui est en synchronisation avec ceux de Ganymède et de Io, elle est à la fois étendue puis compressée. Et ça génère de l'énergie qui permet à l'eau, malgré les moins 160 degrés de température, d'être liquide.
C'est complexe.
Assez. Tellement complexe que j'en ai dépassé le temps de ma chronique et j'ai bien peur que...
Eh ben, c'est terminé.
Qu'on passe Clipper un peu...
Oui, une belle mission qui va partir loin, 5 ans.
En deux mots, cette sonde vient d'être lancée en octobre, par la NASA, et son but est de foncer vers Jupiter et d'avoir un orbite elliptique, autour de Jupiter. Comme ça, périodiquement, elle peut venir voir, se rapprocher d'Europa, observer, et pendant qu'elle est très loin, hors de la ceinture de radiation, envoyer les résultats à la Terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que tellement cette ceinture de radiation est puissante, elle peut détruire en moins de 3 mois, n'importe quel satellite. Mais malheureusement, on n'aura les résultats que d'ici 2030-2031.
C'est un peu
Mais
bon.
On espère beaucoup.
En temps aussi.
Tu nous tiendras au courant.
Oui.
C'est 2 milliards, je crois, le budget de
tout de suite, l'argent.
5
quoi.
Milliards.
Ouais. 7
milliards. Tu penses vraiment qu'il y a l'argent.
C'est l'autre... mission du coup européenne. Donc on va quitter l'espace infini et revenir dans des plans beaucoup plus terre à terre avec Chaton. Tu voulais nous parler de cuisine, plus précisément de poêle, je crois.
Bien évidemment.
Et d'un ingrédient mystère qui s'invite un peu trop dans nos recettes.
Les Français parlent au français.
Nous sommes en
en guerre.
Vous avez vraiment voyagé dans la malle ?
Vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée.
C'est quoi, c'est un rhume, une angine, et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien ? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses ?
Ta gueule, maman !
Alors, mes petits crypto-capitalistes, ça va ? Vous êtes de retour ?
Très bien, merci.
Ouais, parce que pour remettre dans le contexte nos chers auditeurs, les gars que vous entendez au micro là, il y a à peu près 7 ans, ils faisaient une petite émission nommée Crypto Campus qui parlait, attention, tenez-vous bien, ça peut surprendre, de crypto-monnaie. Mais alors comme ça, on veut se racheter une conscience après avoir claqué tout son pognon dans le bitcoin ? Vous êtes à sec, les gars ? C'est quoi ? Vous croyez que Radio Campus, ils vont vous filer des éthérums à la fin de l'émission, souvenir du bon vieux temps ? Et parce que vous vous lancez dans une émission bienveillante pour échanger sur la thématique de l'eau ?
Radio Campus sont plus pauvres que nous.
Oui, merci. Des crypto-monnaies aux propriétés biologiques de l'eau, une ascension fulgurante de 6 hommes poussés par leur destin. Putain, on se croirait dans Confession Intime, c'est n'importe quoi, les gars. Et puis bon, les mecs, vous voulez tenir une heure à parler d'eau, mais je vous rappelle quand même que quand on a fait le pilote de l'émission, la première chose que vous avez écrite dans la to-do list, c'était vérifier que le frigo de la cuisine dans les logos de la radio est bien penché afin de pouvoir garder la bière au frais. Donc clairement, bah, ça débute mal. Hein.
C'est à base d'eau, hein, la bière.
C'est une question de point de vue.
On a émis Ricard aussi, je crois.
Mais du coup, moi, pour cette chronique, j'ai décidé de ne pas trop vous bousculer et donc de lier le thème de l'émission avec des sujets que vous maîtrisez. Je vais donc vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée cet été. J'étais invitée à un mariage d'amis, parce que ma vie devient un peu nulle parce que j'ai bientôt 30 ans, qui avait lieu dans la petite commune charentaise, aussi charmante que bucolique, j'ai nommé Cognac. Et oui, les petits énervés de la blockchain, Cognac, avant d'être un spiritueux que vous commandez dans des bars aussi crades que votre âme à 4h du mat, c'est aussi une ville. Coincée entre Saintes et Angoulême, elle est, vous l'avez compris, connue pour son eau de vie de vin commercialisé sous l'appellation de la commune qui se situe au centre de sa région de production. Alors vous allez me dire, quel rapport avec l'eau ? Eh bien justement, avant de partir au mariage, je n'en voyais aucun, jusqu'à ce que j'en parle à une amie à moi, qui m'a de suite invectivée en me déconseillant de boire l'eau du robinet sur place. Bon alors déjà, j'avais envie de lui dire, je fais ce que je veux, hein, en fait, génération Z ma gueule, mais vu que je suis curieuse, que je suis une flippette et que je confonds génération Z et supporters d'Éric Zemmour, j'ai tapé les mots cognac et eau sur internet, et après être tombée sur une pub pour le cognac eau de mer, un cognac audacieux qui bouscule les codes, je suis tombée sur une enquête de la cellule d'investigation de Radio France réalisée en partenariat avec France Bleu en 2024 sur la présence en France de PFAS, autrement dit PFAS ou PFAS. L'étude a permis de réaliser 89 prélèvements d'eau potable un peu partout sur le territoire afin de pouvoir les analyser. Et le prélèvement de l'eau potable de Cognac a mis en évidence la présence de 10 PFAS au sein de l'eau, faisant de Cognac la commune avec le plus mauvais résultat de l'enquête. PFAS, c'est l'acronyme qui désigne les substances per- et polyfluoroalkylées. Ces substances sont définies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'AZES, comme représentant une vaste famille de plusieurs milliers de composés chimiques dont les caractéristiques anti-adhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs font qu'elles sont largement utilisées depuis les années 1950 dans diverses applications industrielles et produits de consommation courante comme le textile, les emballages alimentaires, la mousse anti-incendie et les revêtements anti-adhésifs genre Teflon, etc. Les très nombreux PFAS ont comme point commun d'être persistants dans l'environnement en raison de la solidité des liaisons carbone-fluor qu'ils contiennent, raison pour laquelle on les appelle polluant éternel. Vous l'avez donc compris, les PFAS désignent la famille de substances et au sein de ces substances, vous avez plusieurs substances perfluorées telles que le PFOS ou le PFOA qui ont notamment été retrouvées dans les eaux de Cognac. Le PFOA étant aussi appelé C4, soit le nom d'un explosif que tu peux notamment coller sur les murs dans Call of Duty. Donc ça fait super envie. Quant au PFOS, de l'acide perfluoctané sulfonique, il est notamment utilisé pour faire du Skydrol, un liquide hydraulique résistant au feu utilisé dans l'aéronautique créé en 1948 par Douglas Aircraft et... Mais Monsanto, bien sûr, bien connu pour avoir remporté le prix Pulitzer en 2011 suite à son œuvre fictionnelle transgressive nommée La planète des aubergines transgéniques, big up à eux. Ce qui est sympa, c'est que certains PFAS connus peuvent avoir des effets délétères pour l'être humain, et je cite l'AZES, augmentation du taux de cholestérol, cancer, effet sur la fertilité et le développement du fœtus, sur le foie, sur les reins, etc. Alors je ne sais pas vraiment à quoi correspond le etc, ça peut indiquer une multitude de conditions, un pancréas qui se développe sur le nombril, un clitoris qui pousse au milieu du nez, ou encore une transformation de ta trachée en Christine Boutin. En vrai, je ne sais pas, c'est le principe de la locution, etc. Tu peux littéralement dérouler tout et n'importe quoi. Donc Christine Boutin, j'en avais envie, donc voilà, c'est fait. Pour revenir à nos moutons, en décembre 2023, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, a classé le PFOA, un des PFAS, comme cancérigène pour l'homme et le PFOS comme peut-être cancérigène pour l'homme. Alors oui, il existe une norme de classement international peut-être cancérigène pour l'homme. En gros, c'est un peu l'équivalence de PPDA qui déclarait peut-être
montre qu'elles n'étaient pas toutes consentantes. Cette fameuse étude a donc révélé que l'échantillon d'eau de Cognac contient 10 PFAS sur les 25 recherchés et que l'échantillon d'eau prélevé à Cognac est impropre à la consommation si l'on se réfère à la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette dernière fixe en effet un seuil de 100 nanogrammes par litre à ne pas dépasser pour une somme de 20 PFAS. Ce seuil est dépassé dans l'échantillon analysé des eaux de Cognac puisque la somme de ces 20 PFAS atteint presque 200 nanogrammes par litre, soit près du double autorisé. Pour ce qui est des origines de cette présence anormalement élevée des PFAS dans les eaux de Cognac, elle est difficile à identifier. Dans son rapport publié en décembre 2023, le KIRC estimait que, je cite, « ces polluants sont omniprésents dans l'environnement, même dans les zones les plus reculées. Les PFOA et les PFOS ont été trouvés dans les emballages alimentaires, les tapis, les matériaux de construction, les produits cosmétiques et sont également utilisés dans l'industrie. À la clé donc, une potentielle contamination de l'environnement par les émissions industrielles. La question qui se pose donc assez facilement pour Cognac est le lien entre la quantité de PFAS dans l'eau et la production à l'échelle industrielle du Cognac, parce que les vignobles de Charente et de Charente-Maritime sont déjà bien connus pour leur utilisation record de glyphosate dans le cadre de la production du Cognac. D'autres causes pourraient être à l'origine de cette pollution aux PFAS, mais aucun lien direct n'a encore été établi. Le problème, c'est que l'utilisation des PFAS en tant que telle par l'industrie ne fait pas l'objet de réglementations strictes. Aucun texte international ou européen n'impose à ce jour de limite d'émission pour ces substances dans les eaux résiduaires rejetées par les établissements industriels, à l'exception du PFOS pour lequel, au cas par cas, certains sites industriels fabriquant ces substances ont été réglementés pour ces rejets. De manière générale, c'est la convention de Stockholm de 2001 qui encadre à l'échelle internationale plusieurs composés de la famille des PFAS. Si la production et l'utilisation du PFOA et du PFOS font l'objet de certaines restrictions, la liste d'exceptions à ces restrictions est cependant aussi longue que les traces de cocaïne de Pierre Palmade, photos, imagerie, certains revêtements photorésistants et anti-reflets, agents de gravure pour semi-conducteurs, fluide hydraulique pour l'aviation, plaquage métallique dans les systèmes en boucle fermée, certains dispositifs médicaux, mousse anti-incendie, vêtements professionnels hydrofuges ou oléofuges, dispositifs médicaux invasifs ou implantables. La liste continue, mais je vais quand même vous dire mon préféré, certains appâts à insectes. Quand on lit ça, on se dit que du coup, c'est pas étonnant que ces substances se retrouvent dans nos robinets. Si tu passes ton temps à chier sur les murs, bah, il est fort probable que tu te réveilles un matin avec de la merde dans les yeux. Dans tous les cas, si l'alcoolisme est un fléau et qu'on ferait parfois mieux de se contenter de boire de l'eau, les habitants de Cognac semblent devoir choisir entre la bouteille remplie de glyphosate ou le robinet rempli de C4. Pas ouf en somme, mais bon, il leur reste toujours le Coca-Cola.
Merci chaton, c'était très instructif. Tu es une mère pour nous, sans transition. Attends, non, je suis en train d'en faire une. Est-ce qu'on peut vraiment dire sans transition alors qu'on fait une transition? Ça fait réfléchir, hein, les musiques.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle est à bercer.
Vous êtes toujours sur Radio Campus et c'était la mère de Charles Trenet.
La mère de Charles Trenet ?
Oui.
Sa maman ?
C'était sa maman.
Je crois que c'était Charles Trenet, moi, qui chantait.
Sa maman qui sort tout juste des locaux de la radio.
D'ailleurs, de prison, qui sort tout juste de prison.
Si vous avez envie d'entendre cette personne dont tout le monde se fout donner leur avis sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, eh bien restez avec nous, puisque c'est l'heure du débat. Attention, c'est parti. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, on sort direct dans la rue. C'est Adrien avec son Xiaomi Redmi 11, et oui, on fait avec les moyens du bord, crise oblige, merci Macron, qui vous a posé la question du jour pour recueillir vos avis bien tranchés. Adrien, on t'écoute.
Et oui, chaton, j'ai pris ma casquette de reporter et je suis allé faire un tour dans la rue pour demander aux gens « Est-ce que vous pensez qu'on gaspille trop d'eau au quotidien ?» Alors, les réponses sont plutôt intéressantes. Allez, on écoute tout de suite ce qu'ils nous ont dit.
Pour moi, ça, c'est du bon sens.
Okay.
Aujourd'hui, maintenant, on est tellement sensibilisé autour des actions écologiques et puis on voit son impact au quotidien maintenant aujourd'hui avec le climat. Que bah, c'est totalement normal. Et puis quand j'entends régulièrement qu'il y a des restrictions d'eau dans différentes régions, là l'été dernier c'était ma région d'origine où il y a eu certaines restrictions d'eau, bah, je me dis bah c'est logique.
Bah, je sais que moi je fais quand même attention à pas trop gaspiller, mais je vais pas utiliser l'eau de mes pattes pour la mettre dans les toilettes, toi, ou des choses comme ça. Moi, je vis en appartement, donc je peux pas avoir de récupérateur d'eau déjà.
Okay.
Donc les toilettes, bah, voilà. Et bon, j'ai pas de baignoire, mais j'ai une douche.
Okay.
Et la douche, bah, quelquefois, voilà, quand t'as beau savoir quand t'es dessous que c'est pas cool, mais quand c'est chaud et que t'es bien, tu fais ta petite séance de Royal Tonic.
Chaud et bien.
Bon, c'est clair que certains se prennent vraiment la tête avec notre consommation d'eau, et c'est bien. Pendant que d'autres, ben, ça les laisse indifférents, ou n'y font pas plus attention. Du coup, j'ai voulu creuser un peu plus en leur demandant, d'après vous, que pourrait-on mettre en place pour gaspiller moins d'eau ? Alors, j'ai eu pas mal de réponses avec des idées variées. Écoutons tout de suite.
Elle était en Inde. Donc, en Inde, bah, l'eau a partout, à tous les robinets, elle sort, elle n'est pas forcément potable. Il faut des filtrateurs à eau. Et donc, les filtrateurs à eau, c'est des installations que tu vas mettre que sur des points d'eau stratégiques. Donc, par exemple, bah, l'eau qui est filtrée et qui est propre et à la consommation, elle sera utilisée bah, pour tout ce qui va être... la consommer. Mmh. Après, elle peut être utilisée aussi pour laver, par exemple, les légumes. Mais par exemple, pour tout ce qui est faire la vaisselle, la vaisselle, elle est souvent faite à l'eau qui n'est pas aussi clean que ce que nous, on a, par exemple, en France. Tu vas avoir pareil, l'eau de la douche, c'est pas forcément de l'eau potable. Pareil pour les toilettes. Et ça, je trouve, c'est des choses qui peuvent être inspirantes. Il y a des gens qui font ça dans leur maison maintenant en France. Ils arrivent à faire des circuits avec leurs eaux usées pour les utiliser, par exemple, dans les toilettes.
Mmh.
Et ça, je trouve, c'est un bon moyen de réutiliser de l'eau, mais ça montre bien qu'il y a peut-être trop d'eau utilisée.
Les bâtiments qui sont détenus par les collectivités locales et territoriales sont assez importants, et que s'ils mettaient en place un système de récupération d'eau rien que sur ces bâtiments-là, ils pourraient à ce moment-là le redistribuer, j'ignore sous quelle manière, mais ils pourraient arriver à le redistribuer justement aux citoyens.
C'est un peu une question de choix. Quant à l'opulence, t'en profites, on paye quand même l'eau, rien du tout. Donc, en fin de compte, on en profite et on en abuse. Et là, on voit arriver petit à petit, dans les années à venir, on n'arrête pas de nous dire, bah, faites attention, parce que les villes commencent à s'assécher, à dire, bah, c'est compliqué. Un jour va arriver où on va payer l'eau du robinet super cher.
Bon, ce que j'ai pu constater avec tous ces micro-trottoirs, c'est que finalement, ça ne laisse personne totalement indifférent, même ceux qui se sentent le moins concernés. Mais la question reste ouverte. Est-ce qu'on en fait réellement assez pour préserver cette ressource qui nous est précieuse ?
Incroyable, merci Adrien. On n'imagine pas que les badauds que l'on croise dans la rue puissent avoir des opinions. Moi, j'ai toujours pensé que c'était des PNJ. Alors les PNJ, ce sont des personnages non jouables pour nos oreilles les plus anciennes. En quelque sorte, des personnages de seconde zone dans lesquels les développeurs n'ont pas investi beaucoup de temps ni d'argent, puisqu'il n'était pas prévu qu'ils apportent quoi que ce soit au jeu. C'est un peu comme des enfants faits trop vite et sans amour. Ces enfants que l'on n'a pas élevés, pas préparés à affronter le regard des autres, parce que l'on pensait que le jour où ils se révéleraient au monde, on ne serait plus là. Et même très loin. Et puis bon, finalement, on s'attache et le petit Jimmy ne sait pas compter jusqu'à 5 à 16 ans, c'est pas si grave. On l'aime bien, même si on sait qu'il ne sera pas astrophysicien, c'est quand même plus sympa qu'un chien, un grand gaillard d'1m92 sur les photos de famille. C'est le propre de l'homme, de commettre des erreurs, s'arranger avec la vérité et les présenter aux autres comme des merveilles. Comme si 7 chroniqueurs qui n'ont pas travaillé, ne se sont pas concertés, pouvaient présenter un débat qualitatif. C'est pas grave, on réécoutera cette émission et on se tapera dans le dos en se disant que c'était bien, bande de petites merveilles. Alors vous êtes prêts? C'est parti, hein, on fait un débat sur l'eau. Est-ce que vous êtes des PNJ de l'eau, hein? Non? À brûle pour point là. Moi j'en vois. Ouais, je pense que il y en a parmi vous qui font juste pipi sous la douche pour se donner bonne confiance et qui pensent que ça peut également potentiellement soigner les mycoses. Mais je pense quand même qu'il y en a parmi vous qui ont quand même des vraies solutions. Vous utilisez l'eau tous les jours. Et regarde.
Faire pipi sous la douche.
Voilà. Se brosser les dents sous la douche.
Brosser les dents sous la douche. Se raser ou se couper les cheveux.
Fermer l'eau quand on se brosse les dents aussi.
Bah non, pas quand t'es sous la douche. Parce que le but, c'est de pouvoir te brosser les dents en te douchant. Du coup, là, tu fermes pas l'eau. Mais par contre, si tu.
Bah, tu peux te brosser. Quand tu te brosses les dents, t'as pas besoin que l'eau elle coule.
Oui, mais tu te brosses les dents sous la douche.
Ah ouais, oui. C'est double.
Bah, mais tu fais quoi du coup? Bah, tu fais couler l'eau pendant que tu te brosses les dents.
Ça
sert
ça
à quoi?
Ça n'a plus de sens.
C'est encore pire.
T'as besoin qu'une seule main pour te brosser les dents. Donc, avec la main droite, tu te brosses les dents et avec l'autre main, tu te douches.
Non mais après, pour revenir au truc de fond, parce que finalement, oui, la manière dont vous vous touchez,
la thématique n'est pas la douche. Hein, ouais.
Il y a ça, il y a récupérer de l'eau, il y a une dame qui l'a dit là, ou un monsieur qui ne pouvait pas avoir de récupérateur en ville, mais voilà.
Mais récupérer de l'eau, ça fait pas tout. Regarde, moi j'ai un récupérateur d'eau, pour autant je fais quand même pipi dans de l'eau potable, tu vois. Et ça implique aussi derrière de mettre en place tout un système où de l'eau récupérée, tu puisses l'injecter dans tes chiottes, tout ça, enfin c'est... Ça reste complexe, mais en plus, nous, t'es relié sur l'eau publique.
Alors, à ce moment-là.
Directement, je pense que ça peut...
Beer Grylls, ça marche aussi.
Oui. La direction que prend ce débat m'étonne.
Référence à Dune, on a compris.
Au-delà de ça, si je peux me permettre, on parle beaucoup
Tu peux te permettre. Ah, tu peux complètement te permettre, c'est le but. Permets-toi.
Cette liberté qu'on a sur ces ondes, c'est un truc de malade.
Eh oui, fais gaffe, tu risques de te faire virer, par contre, à la fin de l'émission. Vas-y, fais gaffe à ce que
tu veux. Je vais en profiter à fond, alors. En fait, on parle beaucoup d'un sujet là, donc tout ce qu'on a entendu sur le micro-trottoir, on parle essentiellement de la raréfaction de l'eau finalement, quoi, le fait qu'on va sans doute en manquer à un moment donné, mais on parle pas du tout de la partie pollution comme a été mentionné par Chaton en fait, et le problème il est double quoi.
Mais non,
et aujourd'hui on se préoccupe essentiellement de putain merde, y a pas d'eau en été, on galère quoi.
Moi ce que j'ai retenu c'est qu'à Cognac l'eau est polluée, faut boire du cognac.
Ouais, mais tu vois,
mais le cognac aussi il est pollué, c'est ça qu'il fallait retenir aussi.
Et après, d'un coup.
Chaton, corrige-moi si je me trompe, mais. A priori, c'est le fait de produire du cognac qui pourrait très probablement polluer l'eau.
Le lien, il n'a pas du tout été directement établi. Néanmoins, c'est ce que le centre sur le cancer expliquait. Les PFAS, ils sont principalement utilisés dans l'industrie. Donc, si on en retrouve autant partout, même dans des lieux reculés, c'est qu'il y a des. En tout cas, il y a une vraie question du rejet industriel et au-delà des PFAS, hein, de manière générale. Parce que, du coup, à cognac, si tu rajoutes le glyphosate, les PFAS, parce que là, l'étude, elle était centrée sur les PFAS, mais la thématique de la qualité de l'eau et de qu'est-ce que contient l'eau que nous consommons, c'est un vrai sujet, une vraie question, et je suis d'accord avec PS, c'est pas forcément la thématique principale qui revient quand on parle de l'eau. Pour autant, avant de manquer de l'eau, déjà il faudrait qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on boit.
Attendez,
quoi.
Les deux questions peuvent vivre ensemble, il y a oui, pas une question plus forte que l'autre.
C'est juste qu'on peut vraiment dire que la plupart des gens se préoccupent du manque d'eau.
C'est une question non binaire.
Moi, j'aimerais dire que je trouve qu'on met beaucoup la responsabilité, enfin, on essaie de mettre la responsabilité sur les individus, alors qu'au final, on représente une part tellement minime du problème. Si on prend que ce soit les industriels, notamment, et même la législation en France, c'est ça qui va faire changer les choses. Il suffit, nous, on est une région où on a un peu de montagne et un peu de neige. Ben, il suffit de voir quand il n'y a pas de neige, on balance des canons à neige et bien sûr on utilise l'eau potable pour faire ça. Bien sûr, on fait de la neige sur une montagne. On met de la neige sur une montagne.
Mais alors moi je suis d'accord avec toi, mais ça c'est la théorie du colibri, tu vois, c'est jusqu'où ça va. Enfin, en gros, est-ce qu'on doit prendre part à ça? Est-ce qu'on remet tout sur la gestion industrielle de tout ça, ou est-ce que nous aussi on a notre part à prendre et on doit nous aussi faire des efforts, même si je suis d'accord avec toi.
Ce que dit Nirvan, c'est pas de dire genre en fait faut pas faire les efforts, quoi. Ouais, c'est que le problème il est plus large que ça. Voilà. Et qu'en fait, tout seul, une personne n'y arrive pas toute seule.
Comme dernier exemple, en tant qu'individu qui a vraiment de l'impact, c'est la, par exemple, consommation de viande. Je sais que, par exemple, pour produire 500 grammes de viande, il faut 7500 litres d'eau. Donc ça représente 40 douches. Bon, bah ouais, bah, je vais réduire de 1 litre ma douche. Ouais, mais d'accord, tu manges 100 grammes de viande par jour et c'est fini, quoi.
Ah, mais ça, je suis d'accord, mais c'est le truc de... on se pose pas nécessairement les bonnes questions, mais c'était super intéressant. On va quitter ce débat, cette zone passionnante d'échange d'idées.
On y revient après.
On a même pas parlé de la création
On va rester dans cet adir, dans cette magnifique émission, et on va enchaîner directement avec un affrontement épique de notre équipe, avec un question, non pas pour un champion, ni pour deux champions, ni pour trois champions, ni pour quatre champions, ni pour cinq champions, vous avez compris, je vais pas faire tous les chiffres, mais pour sept champions. À vous, Julien Dupère.
Ta 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 ta. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est question pour 7 champions. Bonjour, ça va?
Oui, ouais. Oui, très bien.
Alors c'est ce jeu qui
on
est plus ou moins...
On est que 6 hein.
Pardon?
On est que 6 à jouer.
Oui, je sais, je m'en suis rendu compte après. Et ça a pas vraiment de sens dans c'est-à-dire de faire une question pour 6 champions. Du coup tu... Ouais, voilà.
Voilà, okay. C'est tout.
Merci beaucoup. Donc du coup le thème central c'est l'eau, évidemment. Toute ressemblance avec question pour un champion est complètement normale, puisque j'ai tout pompé littéralement 100% de cette équipe là-dessus. Même le jingle, vous l'entendrez. Alors, comment ça va se passer? Nos deux équipes qu'on leur a nommées respectivement avec beaucoup de recherche, on va dire, gauche et droite.
Tout à fait.
Alors, l'équipe gauche est composée
non,
de...
Non, c'est nous l'équipe gauche.
Nous, c'est droite, nous.
Ok.
Eux, c'est la droite, là.
Ça m'étonne pas.
On a les enculés.
Nécessairement.
Les enculés de partout.
On a donc Arnaud, Chaton et Nirvan dans l'équipe gauche.
Tout
et on
fait.
A donc Adrien, PS et Skinson dans
attends,
l'équipe droite.
Gauche.
Tout dépend. Mais la gauche et la droite, c'est un peu relou. Tout dépend comment tu
comment ça existe plus.
Peu importe. Aujourd'hui, nos chroniqueurs autour de la table se battent pour un lot de dingue. Non pas 5, non pas 10, non pas 8, non pas 9 litres, mais 800 millilitres d'eau potable dans mon sac, dans une gourde quechua. Je vous donne l'eau, vous me rendez la gourde, évidemment. La production n'est pas responsable du fait que vous pourriez potentiellement ingérer des faces. Et dans tous les cas, il n'y a pas de production. Donc, on est plutôt pas mal là-dessus. Comment ça va fonctionner? Le jeu se déroule en deux manches. Une première manche très rapide qui s'appelle le Rapido, c'est QFD. Donc c'est juste des questions que je vais vous poser. Vous avez un buzzer par... Alors est-ce qu'on peut faire un test des buzzers s'il vous plaît? Équipe gauche.
Mais moi je veux l'avoir près de moi le buzzer.
Je peux prendre le buzzer?
Attends, prenez un buzzer par équipe. Ok, ça c'est le buzzer de l'équipe gauche, c'est un petit burger. C'est là c'est le jouet du chien que j'ai...
Lego.
C'est nettoyé à peu près avant de venir.
C'est un bon toutou.
D'ailleurs un petit big up à Lego d'ailleurs, donc, si tu nous regardes.
Ouais, si tu nous écoutes puisque c'est la radio en fait.
Oui, sûrement c'est un chien aussi.
Questionnaire de rapidité, le premier le rapido et deuxième partie le face à face, là complètement pompé sur question pour un champion. Si vous connaissez les trucs tant mieux, sinon vous comprendrez tout à l'heure. Je précise bien évidemment que se plaindre ou m'insulter, bah c'est pas vraiment
c'est
intelligent pour vous, c'est un plaisir, mais vous perdez des points forcément et je fais ce que je veux puisque c'est quand même mon jeu. Donc voilà. Et tout de suite on enchaîne avec la première partie du jeu, le rapido.
Le rapido.
Je ça, précise un truc parce que
qualité,
merci pour les jingles de qualité. Je vous vois jouer avec vos buzzers. Tout buzzer mal placé donne le point à l'autre, surtout dans le rapido. Donc en gros, si vous buzzez et que vous n'avez pas de réponse,
PS,
vous...
enlève ce buzzer d'ici, non, PS.
Ou que vous vous trompez, le point va à l'autre équipe.
Ok. Simple.
Donc
okay.
Là, pour le coup, c'est facile, c'est simple. On commence tranquillou bilou. Premier thème du rapido, le rapido enviro. Donc je vais vous poser des questions rapides sur l'environnement, rapidité, vous devez répondre le plus vite possible, ceux qui se trompent, vous avez compris?
Vu
vos regards hagards, je me dis que vous êtes un peu perdu.
Pouvez-vous répéter
mais...
la question?
Ok, c'est parti, première question du rapido. Quel est l'animal le plus liquide sur Terre?
L'axolote.
T'as pas buzzé, man.
Axolote.
C'est pas l'axolote, point pour l'équipe adverse, c'était la méduse. Et puis quand il pense, ça se.
Ah, mais oui,
voilà,
mais
parce qu'elle est transparente, elle est dans l'eau, elle est toute mignonne.
T'avais dit que c'était des questions simples. Hein.
Et elle est immortelle.
C'est pas de ma faute si vous savez pas ce que c'est qu'une méduse. Et donc, je précise juste pour les auditeurs qui nous écoutent ou pas d'ailleurs, parce que je pense que pas grand monde nous écoute, que se pisser dessus quand on s'est fait piquer par une méduse, c'est une légende urbaine. Donc à part si vous.
C'est par plaisir alors uniquement.
Voilà, par plaisir ça peut le faire, mais
non,
pas
il
pour.
Faut que ça soit l'urine de quelqu'un d'autre.
Deuxième question, ça fait 1-0 pour l'équipe droite du coup.
Non, c'est
toujours pour l'équipe gauche, toujours.
L'équipe gauche, pardon.
Mais voilà, non, on prend les points quand même.
Deuxième question à 1 litre près. Concentration. Combien de litres d'eau faut-il en moyenne pour produire une bouteille d'eau plastique ?
1 litre ?
Ben non.
Et non.
Attends, mais en fait, nous, on va juste faire une pause, on va vous laisser perdre pendant qu'on gagne.
Selon le type de bouteille, etc., c'est entre 4 et 6 litres d'eau. Donc c'est quand même assez énorme. Il faut 4 fois plus d'eau pour produire une bouteille qui contient 1 litre d'eau que pour boire 4 litres d'eau. Enfin, vous voyez l'idée, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est vrai pour rebondir sur ce que disait Mathilde tout à l'heure, c'est que l'industrie est un consommateur et un pôle de consommation d'eau assez énorme. Donc faites attention. Et en fait, chaque bouteille d'eau coûte beaucoup plus en eau qu'une seule bouteille d'eau.
Buvez au robinet.
C'est dur. Buvez des faces au robinet ou du cognac à
non,
la bouteille.
Non, mais par exemple, chez nous, on a de la chance, l'eau est plutôt pas mal.
On continue ?
On continue.
Ça va, ça fait 2-0 du coup pour.
Laissez-moi répondre maintenant, s'il vous plaît.
À 1 litre près.
Pas encore ?
Quelle est la quantité létale ? Donc, létale, ça veut dire
mourir.
Qui te tue. Parce que
la mort. Le décès.
Quelle est la quantité létale pour un être humain ?
8 litres.
Ah, exactement.
Bien.
Il a bien bossé, celui-là.
Ouais, non, je fais attention.
Très exactement.
Mais c'est pas de l'eau que
très attention. Très exactement, c'est 8,3 litres. C'est calculé par un Chilien, Marcelo Duhalde.
Mais
j'ai pas du tout vérifié cette source, mais a priori, c'est ce que j'avais en tête aussi. Donc attention, boire trop d'eau peut tuer quand
mais,
même.
Mais boire de 8 litres dans la journée
ouais,
ou d'un coup
à la suite.
À la suite.
Puis pour boire 8 litres d'eau à la suite, faut avoir très soif, faut quand même en vouloir. Prochaine question, dernière question du rapido. Attention, on est à 2-1. En moyenne.
Non, 3-0.
Non, c'est 3-0 là.
3-0
ouais, c'est vrai, 3-0.
Ouais, 3-0. Ouais, 3-0. Ouais, 3-0. Donc, en fait, nul, les droites, ils sont trop nuls.
Et toi, t'es pas un très bon présentateur là, hein, pour le coup.
Merci beaucoup, c'est gentil ça. La prochaine fois, je te ferai chier pendant ta
chronique. Tu peux le
dire. En moyenne.
On est bien quoi.
Quelle quantité d'urine produisons-nous dans une vie?
Oh là là, dans une vie.
Ok.
100 000 litres
wow.
Presque, on était à 40 000 litres sur l'équivalent d'un gros camion citerne. Donc vous
ah, mais t'as pas dit
1
litre près cette fois, donc ça peut passer.
Donc j'enlève un point à l'équipe gauche, ça fait donc 2-1.
Ah, c'est 2-0.
2-1, je choisis de faire ce que je veux, c'est 2-1.
Tu t'es trompé.
On passe tout de suite à la prochaine partie de ce jeu magnifique, le face-à-face.
C'est dur.
Le face-à-face.
Ils sont vraiment excellents, ces jingles. Donc, vous connaissez le principe du face-à-face ou pas ? Qui c'est qui a jamais regardé Question pour un champion ici ?
Moi.
Ok, donc en gros, je déroule une série d'informations sur un sujet, l'équipe qui buzz me stoppe et donne une réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, je continue de parler, de donner ma définition. Et l'autre équipe peut prendre la main et proposer, et etc., par jeu de ping-pong, etc., jusqu'à ce que quelqu'un trouve. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, le rapido sert à rien, puisque j'ai décidé, comme ça, arbitrairement, que chaque bonne réponse fournirait 4 points de bonne réponse.
Super.
Donc c'était super intéressant, bien joué à vous d'avoir gagné la première partie.
Tu peux prendre ton chèque à la fin.
Je vous fais un petit exemple quand même, histoire que vous ayez suivi, parce que je suis pas vraiment sûr que vous êtes... Que
la oui, lumière, on est bête quoi.
On est des merveilles. Quoi.
C'était un peu ça. Vous êtes prêts pour l'exemple ? Il faut buzzer aussi, hein. Donc buzzer dans les mains. Créé autour de moi 1 million d'années par Monsieur Dieu pour apporter la vie sur Terre. J'existe sous deux.
L'eau.
Bravo.
Mais...
ça comptait pas.
4 points virtuels, ça ne compte
un
pas.
1 million d'années.
Dommage. Ouais, non, mais je fais ce que
je
veux.
Tu peux pas me donner 2 points, histoire de.
C'est à 4 milliards.
Non, mais c'était la question test,
allez,
chaton.
Allez, sans transition, on enchaîne tout de suite sur la première question du face-à-face. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Main sur les buzzers. Sur les buzzers, Arnaud, j'ai dit.
Oui. C'est mon buzzer personnel.
Approche thérapeutique qui a vu le jour au début du 19e siècle et inventé par le médecin allemand Sam.
Elle a buzzé.
C'est qui a buzzé en premier ?
C'est chaton.
Non, je crois que c'est PS.
Non, c'est chaton.
Non, c'est chaton.
Non, je crois que c'est PS.
Chaton, vas-y.
Elle a pas réponse. Elle a pas réponse.
L'homéopathie.
Bravo.
Ah yes.
Et je sais que ce jeu est truqué.
J'ai eu un 12 en fait.
4 points de plus pour l'équipe de gauche, ça fait donc 6-1.
Je croyais que le premier ne comptait pas le rapido.
Non, c'était l'exemple sur l'eau.
Non, mais le rapido, il comptait pas.
Mais si, ça compte. Allez, toi, t'as perdu le seul point que t'as. Non, mais vous m'avez gonflé aussi.
Ah, j'adore ce jeu.
Alors, deuxième petit face-à-face. Vous êtes prêts?
Oui.
Top, c'est parti. Depuis environ 10 000 ans, je suis un domaine d'activité qui a profondément transformé les sociétés humaines, passant de simples communautés de chasseurs-cueilleurs à des civilisations...
L'agriculture.
Bon, ah, bravo, ah, bravo, 4 points pour l'équipe de droite. On dit de droite ou de droite? Parce que ça change tout quand même.
À droite.
À droite. À droite. 4 à 6. Attention, okay. Tout peut se jouer sur la prochaine, parce qu'en plus, je pense qu'on est déjà en retard, donc il faut qu'on arrête après. Vous préférez quelque chose qui a rapport avec l'eau tant qu'à faire ou un truc qui a vraiment rien à voir?
Rien à voir.
Allez, je le fais comme ça parce que bon, ça a rien à voir, mais ça me fait plaisir. Il y en a certains qui sont avantagés quand même sur celui-là, mais bon, ouais. Top, c'est parti. Ce terme évoque à la fois des moments de créativité ludique et un compagnon fidèle, souvent vu comme expert en désordre.
Lego.
Bravo. Pour l'équipe de droite. Et c'est une victoire.
Oui.
Bravo les gars.
Moi j'ai monté une
bouteille d'eau. Et n'oubliez pas bien entendu votre encyclopédie Lance. À vous les animateurs.
Bravo Nils. Enfin Aurélien. C'était super cet instant d'amusement. La maison brûle mais c'est pas grave hein. On n'a qu'à créer des petits moments ludiques pour prendre soin des auditeurs pendant que les Espagnols vont sécher leur maison. Oui, protégeons nos moments d'égarement sous couvert de ménager la charge mentale de la ménagère. Tiens, regarde par la fenêtre, tu vois, à force de sanctuariser la frivolité, il n'y a plus que ça, des sanctuaires. L'heure est très grave, les gars. On est en 2050 et on n'a rien anticipé du tout. Si seulement, au lieu de jouer à la radio, on avait creusé des méga-méga bassines, on aurait peut-être pu sauver les escargots. T'es vraiment un petit con, hein.
Bon. Les méga méga bassines, j'aime
ouais,
beaucoup.
Déjà,
ce
les méga bassines, on n'a pas réussi. Alors, les méga méga bassines, on est dans 2050.
Intéressant, puisqu'on reprend le débat après ce magnifique jeu. Méga bassines, qu'est-ce que quelqu'un autour de cette table, parce qu'on en a parlé pendant des milliers d'années, là, enfin pendant très longtemps, est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer ce que c'est et à quoi ça sert?
Alors, moi, j'ai une petite idée. Il semble qu'on va sortir de l'eau des nappes phréatiques peu profondes pour les mettre dans des espèces de cuves à l'air libre où elles vont. Bah déjà,
c'est évaporé.
Bah oui.
En fait, c'est une technique de stockage, quoi.
Mais une technique de stockage complètement débile.
Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais non, mais c'est juste pour l'explication. En fait, c'est juste une technique de stockage.
Le problème, c'est qu'on a des précipitations qui sont de plus en plus aléatoires, plus fortes, plus espacées dans le temps. Il faudrait plutôt créer des systèmes pour réguler, peut-être stocker de l'eau de pluie qu'on va pouvoir réutiliser dans l'industrie et pas aller chercher de l'eau qui est déjà filtrée, qui a passé un peu de temps quand même à être filtrée, hein, pour aller la irriguer des champs avec, en fait. Ça me paraît bête.
On avait entendu, là, les militants contre les méga-bassines, ils avaient... Je sais plus, Stick, c'est toi qui m'en avais parlé. Ils avaient mis dans les méga-bassines...
Ouais, c'est des solutions de combat innovantes. Alors, en vrai, c'est assez marrant. Ils étaient bloqués, là. Il y a eu beaucoup de manifestations là, contre les méga-bassines. À tort ou à raison, qui suis-je pour juger?
En plus, on n'a pas bossé. Hein, donc,
et on n'a pas bossé, donc on essaie de meubler finalement un petit peu. C'est ça. Non, mais c'est vachement intéressant. En gros, puisqu'ils ne pouvaient pas s'approcher des méga-bassines, ils ont lancé des cerfs-volants contenant des graines de, je me rappellerai plus de l'espèce, mais une espèce qui pousse, de végétal qui pousse dans l'eau.
Ils ont de la spiruline, quoi.
Ouais, ce genre de trucs-là. Ils ont largué ça, fait en sorte que ça tombe dans les méga-bassines pour que en fait, c'est un truc qui est hyper invasif, et une fois que la graine est là, en gros, c'est hyper compliqué de la sortir. Et le but, c'est que le végétal croisse, pousse, et vienne, en gros, bloquer les pompes des méga-bassines pour rendre le truc caduque. C'était assez marrant et intéressant. Et vous, du coup, quel moyen de lutte utilisez-vous pour, pour réduire votre impact sur la consommation en
eau? Le préservatif.
Mauvaise émission.
Il n'a pas tant.
Non, c'est vrai.
Un humain de moins, ça fait.
Vous en pensez quoi de tout ce qui a été dit autour des méga-bassines et de ce...
Moi, je pensais qu'au début, c'était juste un truc qui récupérait l'eau de pluie, moi. Je ne savais pas que ça allait pomper... En fait,
le principe, c'est de réduire le contenu de la nappe pour que pour les précipitations suivantes, elles se re-remplissent, non?
En fait, c'est pour éviter les années où les années où on a très peu d'eau dans nos nappes phréatiques, on n'arrive pas à pomper autant d'eau qu'on voudrait. Il y a des années où on en a trop, et du coup, c'est pour éviter l'instabilité en fait en termes de gestion de l'eau.
C'est un tampon.
Ouais, mais en gros, c'est un bassin d'orage à l'envers.
En fait, c'est un outil. En fait, si on l'utilise mal, c'est nul. Et si on l'utilise bien, c'est bien.
Cet homme a raison.
Ouais. Après, je vois pas trop comment on pourrait bien l'utiliser là
actuellement. Il y a eu beaucoup d'eau cette année. Il y avait des endroits en France où les tracteurs ne pouvaient même pas passer dans leurs champs parce que c'était gorgé d'eau.
ça veut dire que les nappes phréatiques, et notamment dans le Nord, étaient
remplies
à ras-bord.
C'est complètement faux, ça.
C'est complètement faux.
Non, non, oui, ça, c'est pas vrai.
Fake news.
Quand la nappe, il faut 6 mois pour... Si l'eau tombe en une telle, dans une telle quantité...
Il y a plusieurs types de nappes phréatiques.
Oui, mais en gros, de chez gros, quand l'eau tombe très vite, beaucoup très vite, ça rend le sol complètement imperméable, et cette eau-là, elle ruisselle, elle va se jeter dans les cours d'eau et pas du tout dans les nappes phréatiques. En fait, pour remplir une nappe phréatique, il faut qu'il y ait des précipitations qui soient...
Il y a plusieurs types de nappes phréatiques. Il y en a qui se remplissent très vite et d'autres qui se remplissent très lentement.
Ouais, mais même ça se remplit jamais si ça fait une énorme pluie en fait, genre pendant 4 jours. Toute l'eau qui va, elle va faire que ruisseler en fait l'eau.
En tout cas, j'ai vu qu'il y avait énormément de nappes qui étaient remplies cette
année. Oui, mais parce qu'en fait, ça a plus longtemps.
Et du coup, pourquoi on n'utilise pas ces méga bassines pour juste pour la pluie qui tombe quand ça fait des gros torrents?
Je pense que ça suffit pas.
Ça s'appelle des bassins d'orage en fait.
Ok, ok, c'était super intéressant, Arniche.
Ouais, on est en train d'un peu d'empiéter, donc il va falloir opérer des choix stratégiques. Soit vous voulez continuer à parler, soit on écoute de la musique.
Non, mais on va continuer ce magnifique débat et puis on enchaînera sur le reste.
Ouais, bah
ouais. Est-ce que l'on a déjà entendu parler des techniques qu'ils utilisent aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite pour générer de la pluie?
Extraire du pétrole.
Lancement du nuage, mon pote.
C'est quoi sur exactement ça?
On jette du nitrate d'argent,
du bromure d'argent,
un truc comme ça, dans les nuages.
Ça a l'air sympa comme produit, ça.
Ouais, mais a priori,
ça contient des phases ou pas, chaton?
C'est super pour avoir beaucoup de merveilles.
Comme tout.
Mais je crois que c'était les Chinois qui avaient théorisé un petit peu le truc au début. Il y avait eu un rapport qui disait les nuages, c'est une ressource qui survole notre pays.
Et dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Sans qu'on en profite, exactement. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas faire tomber la pluie, quoi? Tu vois?
Eh oui.
Ouais, mais a priori,
on a Francis Salane, mais
tout le monde n'a pas ça.
Non, il y a des études qui montrent qu'en moyenne, en fait, l'effet, il est quasi nul, quoi. Il n'est pas démontrable, en fait.
De ce que j'ai pu lire, en tout cas, ça marche depuis genre une cinquantaine d'années.
Ouais, là, il va nous falloir un consensus.
Ouais, mais je pense qu'ils sont regardés la doc. Ça serait pas un petit peu jouer à Dieu quand même, de faire péter des nuages.
Surtout de faire tomber de l'eau artificiellement dans une ville où il y a la clim dans la rue, ça pose quand même une petite question. Quoi.
On n'a pas parlé de la pertinence du truc. Moi, je parlais juste de la technologie en elle-même.
Oui, bien sûr.
Ça fait un moment que ça se fait, il me semble, Sanson. Je crois que ça a plusieurs dizaines d'années.
Il a 50 ans.
50 ans, c'est ça, exactement.
Mais c'est pas ce qui s'est passé au Maroc, là. Ils n'ont pas fait ça au Maroc et du coup, il y en a plein qui disent que c'est à cause de ça qu'il y a eu des problèmes de pluie à Valence et tout.
C'est possible.
C'est possible, tout à fait.
Alors, ce que je note quand même.
Complotisme ici.
Ouais. Ça fait une super transition. Mais ce que je note quand même, c'est que on a parlé tous de plein de choses dont on n'avait aucune idée de si c'était vrai ou pas. On n'a pas du tout sur
En fait,
on est un peu tous des Pascal Pro ici. C'est
moi, j'ai fait mes propres recherches.
C'était la première question.
Quand même poser les bonnes questions, je trouve.
Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, et puisque vous avez tous voté pour Trump à l'élection américaine, et vous enseignez les tubes de Francis Lalanne sous la douche, et bien cette chronique sur les théories du complot est tout spécialement faite pour vous. C'est le redoutable Nirvan, maître des énigmes et architecte des vérités cachées, qui se chargera de vous guider à travers ce dédale de mystère.
Complotiste, hein ? Théorie du complot, brûlé, hein ? Sur le bûcher, complotiste, hein ? Théorie du complot, brûlé,
Jean-Marie,
ouais, sur le bûcher, complotiste, hein.
Comment ça va, mes petits complotistes en herbe? On est là pour se dire les choses franchement, non? Alors exit le politiquement correct et on parle sans détour. Bienvenue dans ce monde étrange de la science où l'eau se souvient de tout, même de ce que vous avez mangé au déjeuner. Oui, tout à fait, l'eau a une mémoire. La mémoire de l'eau, un concept qui a illuminé les esprits, enfin... certains esprits dans les années 80 et qui a inspiré l'homéopathie. Oui, l'homéopathie, ce grand mystère des pharmacies où, si vous y croyez, l'eau guérit tout. Une goutte d'eau pour soigner la goutte, peut-être. Bon, pour commencer, un petit rappel historique. En 1988, un certain Jacques Benveniste, un chercheur français, a publié une étude dans Nature, un journal scientifique réputé, affirmant que l'eau pouvait se souvenir des substances avec lesquelles elle était en contact, même après qu'elle a été diluée à un tel point qu'il n'en restait plus aucune molécule de la substance d'origine. En gros, l'eau garderait en mémoire les propriétés des substances qu'elle a croisées, même après qu'elle ait disparu. Et voilà comment l'eau est devenue un super-héros scientifique.
Mais
de l'eau savante.
On dirait une grosse connerie.
Rien que ça. Si je vous dis que l'eau dans mon verre se souvient de la pluie qu'il y avait l'été dernier, vous me croyez? Bon, ouais. Apparemment, quelques scientifiques y ont cru. Sauf qu'après des tests de reproduction de l'expérience, comment dire? La mémoire de l'eau n'a pas vraiment pu être confirmée, ce qui n'a pas empêché certains de se jeter sur cette découverte comme des enfants sur des bonbons, créant ainsi la légende. Et c'est là que l'homéopathie entre en scène, majestueuse, avec ses remèdes ultra dilués. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Des petites granules tellement diluées qu'il ne reste plus rien d'autre que de l'eau. Et selon les partisans, cette mémoire de l'eau ferait toute la différence. Vous voulez guérir du rhume? une petite pilule d'eau mémorielle. Vous souffrez de douleurs musculaires, voilà de l'eau encore plus diluée. Et ce, même si les études cliniques sont unanimes. L'homéopathie n'a aucune efficacité prouvée au-delà de l'effet placebo. Ah, l'effet placebo. Ce merveilleux effet qui vous fait croire que vous êtes guéri juste parce qu'on vous l'a dit. Mais revenons aux études. En 2010, une revue de 22 études cliniques sur l'homéopathie réalisée par le Cochrane Collaboration n'a trouvé aucune preuve solide que l'homéopathie fonctionne mieux qu'un placebo pour traiter des affections comme la douleur, les rhumes et les troubles digestifs. Mais bon, c'est vrai que tout ça n'a pas empêché l'industrie de l'homéopathie de prospérer, avec un marché mondial qui pèse, tenez-vous bien, près de 6,7 milliards de dollars par an.
Oh my god!
Pas mal pour des pilules invisibles et de l'eau qui se souvient. Si vous avez encore des doutes sur la prétendue efficacité de l'homéopathie, sachez qu'en 2017, une étude menée par l'Australian National Health and Medical Research Council a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que l'homéopathie soit plus efficace qu'un placebo pour une cinquantaine de conditions médicales. Et encore, je ne parle pas des autres études qui ont mis en lumière les dangers potentiels liés à certaines pratiques non fondées. Mais rassurez-vous, rien n'arrête les amateurs de miracles. Le message ici, c'est si vous voulez croire que l'eau a une mémoire et que les petites granules peuvent guérir vos maux, eh bien, c'est votre droit. Tant que vous ne remplacez pas un traitement médical sérieux par des petits sucres enrobés d'eau. En résumé, les études sont là, les preuves aussi. La mémoire de l'eau s'avère être plus un souvenir lointain qu'une vérité scientifique. Mais dans le grand cirque de la santé alternative, l'homéopathie continue de faire son petit numéro. Parce que, après tout, qui a besoin de preuves quand on a la foi? Sur ce, je vais aller boire un verre d'eau et peut-être qu'il se souviendra de tout ce que je viens de vous dire.
Merci, bravo, Nirvan. Merci beaucoup.
Moi, j'ai des questions juste avant qu'on passe à la suite, parce qu'on a un tout petit peu de temps. Est-ce que tu sais c'est quoi la base de l'homéopathie réellement? Moi, j'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai ou pas, qu'il prenait par exemple un phallus de canard purulent.
réellement. Du foie de canard, par exemple.
Ouais, c'est du foie. Malade, ouais. Ils le font tremper, genre, ils extraient whatever de ça, ils le concentrent par des milliards et ils le diluent à fond après, c'est ça l'idée?
Ouais.
Makes sense, right?
Mais ils diluent, alors ils prennent une goutte de foie de canard, ils le diluent dans 10 000 litres d'eau, ils reprennent une goutte de ce mélange-là, ils remélangent dans 10 000 litres d'eau et après ils foutent un peu de sucre, ils en font une boule et c'est de l'homéopathie.
Ça fait envie. Merci beaucoup, ouais, merci pour toutes ces informations. Passons maintenant à un peu de légèreté et de classe parce qu'on en manque dans cette émission avec le point Q. Et non, chers amis de la fistinière, il ne s'agit pas de ce à quoi vous pensez. Remettez donc vos mains dans vos poches et délectez-vous de cette chronique, caution culturelle de l'émission, qui, on l'espère, saura étancher votre soif de divertissement.
Merci, chaton.
Fais un effort. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander le clignard ?
Philippe ! Je sais où tu te gardes !
Et merci chaton pour ce magnifique lancement. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cinéma. L'eau et le cinéma, c'est une grande histoire, aussi bien protagoniste comme dans Waterworld qu'antagoniste. On peut penser à Snowpiercer, elle est aussi un vecteur d'émotion, souvent d'angoisse et d'horreur. On pensera bien sûr aux Dents de la Mer, Abyss, etc. Mais aussi porteurs d'espoir et source de vie. Tantôt forces destructrices comme dans 2012, tantôt ressources inestimables comme dans Dune. Bref, que ce soit en filigrane ou au premier plan, nombreux sont les films qui se construisent autour de l'eau. Dark Waters, le premier film dont on va parler aujourd'hui, utilise l'eau comme un vecteur, constitutif du point de départ de son histoire. L'histoire débute en 1998, lorsque Robert Billaud, un avocat, spécialisé dans la défense des entreprises de l'industrie chimique au sein d'un important cabinet, est contacté par un paysan de sa ville d'origine. Son bétail meurt sans raison apparente, et l'homme blâme la société DuPont, ponte de l'industrie chimique aux US, d'avoir empoisonné la rivière voisine.
Monsanto.
D'abord dubitatif, l'avocat va bien vite se rendre compte que cet agriculteur, n'est peut-être pas aussi fou que ça. Petit à petit, il va dérouler la pelote, mettant au passage en péril sa carrière et sa vie de famille, découvrant de plus en plus de faits incriminants, jusqu'à se rendre compte que ce sont bien toutes les réserves d'eau de la région qui ont été contaminées. Et ce, sciemment, par l'entreprise DuPont. Cette histoire semble avoir un goût de déjà-vu. Le fameux trope du « ouin ouin, les grandes méchantes corporations empoisonnent les braves gens, et c'est vraiment pas bien ». Mais il n'en est rien. Il s'agit en fait d'une adaptation de l'un des plus grands scandales sanitaires de ce début de siècle. La société DuPont est en effet l'un des premiers producteurs de C8, aussi connu sous le nom de Teflon, composé en majorité de PFAS, et comme vous l'a déjà expliqué chaton, la dangerosité de ces polluants éternels n'est plus à démontrer.
Pire, au cours du film, on se rend compte que Dupont connaissait la dangerosité de ses composés depuis plusieurs décennies. Mais l'appât du gain et du bénéfice facile se sont avérés plus forts. Au travers de cette adaptation, c'est un regard acerbe du profit et du capitalisme décomplexé qui nous est proposé, et ce, sans tomber dans un manichéisme malvenu. Le scénario nous fait en effet comprendre les raisons qui poussent une partie de la région à malgré tout soutenir Dupont, captif de son discours rassuriste et du seul pourvoyeur d'emploi de la région, à la fois bienfaiteur et empoisonneur. Servi par une belle distribution et notamment à Mark Ruffalo, connu en tant que Bruce Banner chez Marvel, impressionnant de justesse dans le rôle de l'avocat, le film nous embarque dans son histoire. Nous faisons nous révolter face à cette entreprise distribuant la mort, tout en nous faisant sentir impuissants face à un système injuste, truqué et noyauté par l'intérêt et l'argent.
T'as changé Hulk quand même.
Pas content, pas content.
La réalisation n'est pas en reste, et l'ambiance froide et les décors moroses finissent de plonger le spectateur dans une certaine torpeur empreinte de rage et de désespoir. Bref, un excellent film. Attention à ne pas le confondre avec Dark Water, sans S celui-là, un film d'horreur de 2005 qui, au vu des critiques, semble bien, mais pas top. Changeons un peu de décor et passons à un sujet un petit peu plus léger. Il aurait été dommage de faire une chronique cinéma sur l'eau sans parler d'un long métrage angoissant impliquant des créatures aquatiques inquiétantes. Et là, pléthore de choix. Non, on ne va pas parler des Dents de la Mer ni de Sharknado, qui, soit dit en passant, n'est pas un nanar. Non, un nanar volontaire, ça n'existe pas. Ça s'appelle juste un film de merde. Mais alors quoi? Si je vous dis créatures aquatiques inquiétantes et lacmodies, vous ne penserez sûrement pas à Zombie Nazi. Ou alors, c'est un peu inquiétant, mais vos goûts cinématographiques sont certainement excellents. Cependant, c'est bien de cela dont il est question dans le lac des morts-vivants. Et là, accrochez-vous à vos sièges. Réalisé en 81 par Jean Rollin, réalisateur français émérite de films de série B, mais aussi de films plus légers, comme par exemple Suce-moi Vampire, une version hardcore de son film Lèvres de sang, Jean Rollin s'inscrit dans la grande tradition du cinéma d'exploitation, du film bis, du plan nichon et de la nudité gratuite. Le lac des morts-vivants nous raconte l'histoire d'un petit village français dans les années 50, envahi par une bande de zombies nazis en provenance du lac maudit voisin. Ce dernier ayant servi à faire disparaître les corps de soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire commence avec une jeune femme qui fait fi des panneaux d'interdiction et va se baigner nue dans le lac. Elle se fait alors agresser par les 10 zombies, les réveillant de leur apparent sommeil. Ok, mais pourquoi nécessairement nue, allez-vous me dire? Aucune idée, mais il faut bien faire un film. S'ensuit alors un enchaînement de scènes plus ou moins logiques auxquelles viennent se greffer différentes histoires, dont une histoire de filiation entre une fillette et l'un des zombies, qui est en fait son père. Sa mère ayant succombé au charme de ce dernier, de son vivant bien sûr, après qu'il l'ait sauvé d'un bombardement. Bombardement se résumant grosso modo à 3 pétards mouillés dans un champ. Vous l'aurez compris, on n'est pas vraiment devant un chef-d'œuvre du 7e art. Le film se tape d'ailleurs la réputation d'être le pire film d'horreur français jamais réalisé, et cette réputation n'est pas usurpée. Au-delà de l'histoire toute pétée, des faux raccords en pagaille, on peut citer les maquillages désastreux, fond de teint vert pomme dégoulinant pour les zombies, la version waterproof ayant sûrement été hors budget, doublage plus qu'approximatif, ce qui est quand même un petit peu dommage quand on sait qu'il s'agit d'un film français. Le tout bien entendu émaillé de plans nichons et de nudité gratuite. Que voulez-vous ma bonne dame, il faut bien tenir le spectateur éveillé. Un film à conseiller aux amateurs de nanars avertis, les autres risquant fort de s'ennuyer, à moins bien sûr d'être fortement alcoolisé. Et enfin, pour finir, une rapide recommandation musicale. On étire un peu le thème, l'eau c'est un liquide, liquide liquéfaction, on va parler du groupe Liquify, et notamment de son album Illusionary Reality, qui est un véritable banger pour les femmes de rockstoner psychédélique instrumental. Beaucoup de mots compliqués pour dire qu'en fait, bah simplement ça déchire, l'album est dispo sur toutes les bonnes platines et on va se quitter sur un de leurs titres.
Cool. Sanson, tu voulais rajouter quelque chose?
J'ai une petite question quand même pour PS, parce que je renvoie que tu as cité plein de films, mais en sachant que ma chronique était sur Europa, pourquoi n'as-tu pas parlé de Europa One?
Je ne connais pas ce film.
Eh bien dans ce cas, je te le suggère vivement, il s'agit de suivre un vaisseau spatial envoyé vers Europa dans le but de découvrir de la vie.
Et oui, wow, dans l'eau, par exemple. Waouh.
Tout reboucle, elle est vraiment très très bien faite cette émission.
C'est une émission incroyable.
Bravo PS et merci pour ton abnégation. L'étendue de ton savoir est vraiment stupéfiante. Comment tu fais pour regarder toutes ces merveilles et rester aussi humble? C'est vraiment c'est génial. Bon les enfants, c'est pas tout, mais moi j'ai piscine et il est l'heure pour nous de nous quitter. Mais ne pleurez pas, restez forts et gardez l'eau de votre corps comme de véritables Fremen. Vous pourriez en avoir besoin. On va remercier les auditeurs qui ne nous ont pas
écoutés. Bien sûr que non, ils nous écoutent pas.
Et je vais quand même vous poser une dernière question puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps.
La réponse est l'eau.
Un rapide sondage. Nous avons quelques propositions de sujets pour la prochaine.
Ah.
On a une
proposition.
Moi, je dirais, alors ça reste, bah, tu me diras, l'eau c'était très vague aussi, mais j'aurais dit l'énergie.
L'énergie.
Ou extrêmement vague.
Faisons un tour de, tu sais, c'est intéressant, tour de table des prochains thèmes.
Je pense à l'espace.
Moi, je veux rebondir alors sur l'énergie nucléaire.
Nucléaire.
Okay. Ouais, c'est, ça amène au débat, ça.
PS.
Pour un micro-trottoir, ça peut être bien, ça.
Un là, thème. Comme ça, là, bruit pour point, là. J'ai pas vraiment d'idée, là.
Très bien, merci beaucoup. Adrien.
Ouah, comme ça, là. Oui.
Allez, là. Utilise cette.
Un truc sur la nourriture, je sais pas. Un truc sur la viande. La viande.
La viande.
Nirvan, t'as une idée?
Non, là, comme ça, nucléaire, la viande, j'aime bien. C'est deux
l'intelligence
j'aime bien.
L'intelligence
artificielle. J'aime bien manger de la viande.
La viande nucléaire. Bon, okay, on vous remercie.
Super. Ouais, merci à
c'était
tous.
Génial. On se retrouve très prochainement, d'ici environ un mois, pour l'émission suivante. On vous embrasse et restez sur Radio Campus 93.3.
Bisous.
Salut.
Bon dimanche.
Salut. Da 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 da